Il est mort. C'est fini. C'est terminé. Enfin, pas tout à fait. Parce qu'il reste le corps, un corps mort, le corps d'un mort, le corps d'un homme qui était vivant et qui ne l'est plus. Ce n'est pas rien. Alors il reste quelque chose à faire. La mort est affaire des vivants. Et cette affaire tient d'abord au corps mort. Les Romains ne s'embarrassaient pas beaucoup à ce sujet. Les cadavres des suppliciés restent suspendus au bois un certain temps. Et ensuite, ils sont abandonnés aux oiseaux, aux bêtes ou à la fosse commune. La condamnation à mort vaut aussi pour l'après de la mort. L'opprobre se prolonge dans l'absence de soins, de dignité, de respect, de sépulture. Sauf si la famille le réclame et si le pouvoir le permet. Le gouverneur romain d'une province éloignée dispose à ce sujet d'une latitude certaine, et Pilate n'est pas tout à fait persuadé que Jésus ait été coupable de quoi que ce soit. Dans le judaïsme, c'est autre chose. Le risque d'impureté prime, alors l'ensevelissement est une nécessité impérieuse. Les cadavres des suppliciés sont ensevelis le jour même, selon la prescription du livre du Deutéronome. Même ceux qui sont morts de la mort des maudits, pendus au bois, sont mis dans une sépulture réservée aux condamnés. Ce n'est pas un ensevelissement honorable, mais ils ne sont pas laissés à l'air. Il s'agit de préserver la terre et les vivants de l'impureté et de le faire rapidement, particulièrement la veille du sabbat qui interdit de remettre la tâche au lendemain. Il faudrait attendre le jour d'après. C'est trop loin. Le commandement de l'ensevelissement des morts ne souffre pas de délai. Alors ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Il faut ensevelir le corps de Jésus. Mais les disciples sont partis. La famille est absente. Dieu n'est pas intervenu. Jésus a crié la douleur et l'incompréhension avant de crier à la fuite de la vie. Il est mort seul, abandonné. Manque sur manque, vide sur vide, l'évangéliste Marc ne préserve rien ni personne devant la brutalité, la radicalité, la mort, la faim, le vide. Son récit est d'une sécheresse si nette qu'il est impossible d'y échapper, d'adoucir, de différer, de respirer autrement que dans ce rythme strict et aride. Il faut ensevelir le corps, mais ce n'est pas une tâche que peuvent accomplir les femmes qui le suivaient, qui le servaient et qui regardent de loin. Dans le vide ouvert par l'absence de la famille et des disciples, survient Joseph d'Arimathée, inconnu, inattendu, mais bien présent. Joseph d'Arimathée, c'est le Joseph de l'évangile de Marc, qui ne mentionne jamais d'époux à Marie, la mère de Jésus, seulement la mère, les frères, les sœurs. Joseph, ce Joseph, est un membre honoré du conseil, c'est-à-dire certainement un membre du Sanhédrin, ce Sanhédrin dont Marc a pourtant indiqué précédemment qu'il avait été unanime dans la condamnation de Jésus. Mais Joseph attendait le règne de Dieu, une expression qui le rapproche de la prédication de Jésus, suffisamment pour nous donner à penser que peut-être un membre du Sanhédrin n'adhérait pas entièrement à l'accusation contre Jésus. L'évangéliste Luc, lui, le dira clairement dans son évangile. Mais avec Marc, questionner les apparences et les évidences est le chemin ouvert devant les lecteurs, les disciples, les croyants. Joseph, quelles que soient ses motivations, piété du judaïsme, peut-être foi en la parole de Jésus, Joseph ose demander à Pilate le corps du crucifié. Joseph prend ses responsabilités et il fait preuve de courage, même si, comme membre du Sanhédrin, l'accès à Pilate lui est certainement facile. C'est quand même Pilate qui a livré Jésus pour qu'il soit crucifié, c'était sa décision. Joseph demande le corps d'un mort qui était vivant, tout comme lui, Joseph est un corps vivant. Mais ce commun du corps est supérieur à la simple considération de la même espèce humaine. Ce commun est tissé d'histoire et de la foi d'Israël, d'une confiance et d'une espérance pareillement orientées vers le règne qui vient. Et il suffit d'un homme seul pour ne pas laisser le vide et l'absence prendre le dessus et pour y remettre de l'humanité et de la foi. Un homme seul, mais ce n'est pas dérisoire. Pilate, pour sa part, lui accorde non pas le corps, mais le cadavre. Et ce mot signale que Pilate donne la prééminence à la mort. C'était la condamnation à mort. Et pour le gouverneur romain, c'est le dernier mot. Seule la mort lui importe. Et donc, il faut vérifier que le mort est bien mort. Et le centurion qui le renseigne est celui qui a confessé que l'homme crucifié était vraiment fils de Dieu. Dans la brève enquête factuelle du gouverneur romain, une trouée, un débordement à travers l'écoute ou la lecture, Marc invite à discerner ce qui n'est pas visible dans les occupations, les préoccupations, les urgences, les rituels, l'ordinaire. Alors le récit se hâte. Il enchaîne les verbes, il faut faire vite avant le début du sabbat. Les aromates ne sont pas indispensables. Et puis Jésus n'avait-il pas déjà été oint d'un précieux parfum ? À Béthanie. Joseph part au plus pressé pour un ensevelissement honorable, mais sans raffinement. Il achète un drap, descend Jésus de la croix, l'enveloppe du drap, le met dans un tombeau taillé dans le roc et roule une pierre devant l'entrée du tombeau. Le minimum. Une écriture minimum pour une réalité minimum. Qui met d'autant plus en évidence l'absence des proches. Sauf Marie de Magdala et l'autre Marie qui observe tout cela avec attention. Parce que grâce à Joseph, le surlendemain se prépare pour elles. Elles sauront où aller. Ce que Joseph accomplit sous le regard des femmes, c'est ce que font les vivants après la mort pour que la mort soit un peu mise à distance. pour maintenir l'écart entre la mort et les vivants. Ensevelir le mort, c'est préparer un lieu pour le temps de la mémoire, ce que rappelle le mot grec tombeau sur la racine de mémoire. Ensevelir un mort, c'est aussi préparer un lieu dont le corps ne bougera pas, mais d'où les vivants pourront repartir. C'est préparer un lieu pour que les vivants continuent à vivre ailleurs que dans la mort, sous la mort. Un mort reste mort, le tombeau le signifie, et en cela il indique l'absence, il marque le manque, ce manque qui ne cesse de trouer encore et encore les existences au fil des jours. Mais en même temps, lieu de souvenir, le tombeau rappelle ce que les vivants doivent à celui qui est mort, ce qui les constitue de leur relation passée avec lui, ce qu'ils ont reçu, qui a participé à la construction de leur être. Vivre ailleurs et vivre autrement que sous la mort, éveiller et entretenir une gratitude, cette dimension profondément spirituelle est conjointe à la conscience de la réalité de la mort et du deuil, une réalité prise très au sérieux dans les Écritures. Peut-être Marie de Magdala et l'autre Marie pensent-elles au manque et au souvenir en regardant Joseph rouler une pierre devant l'entrée du tombeau. Il n'y a plus rien, mais il n'y a pas eu rien. Tous les souvenirs qu'elles apporteront le surlendemain au tombeau, tous les souvenirs qu'elles ont de Jésus sont autant liés au chagrin, au regret, à la déception peut-être, qu'à leur réalité de femme vivante. Alors peut-être que ce n'est pas fini, peut-être que ce n'est pas terminé. Il se peut que le souvenir ne soit pas une chape qui écrase, mais une dynamique pour le présent. Il se peut que la fidélité aux morts ne soit pas la conservation immuable et obstinée du passé, mais le terreau d'un nouveau. Alors il est bon qu'elles soient deux, ces femmes, celles qui ne sont pas parties, celles qui observent, celles qui savent déjà qu'elles reviendront le surlendemain. Cela est bon, car devant un tombeau, devant l'absence, le manque de celui qui est mort, une alliance entre les vivants peut se nouer, entre vivants manquants, incomplets, conscients de leur finitude, ces vivants qui parfois se demandent pourquoi Dieu les a abandonnés, ces vivants que frôle parfois cette solitude qui est le sentiment de ne plus compter pour personne, de ne compter pour, de compter pour rien. Mettre le corps au tombeau, c'est assumer que cette mort est irréparable. Il n'y aura pas de nouvelle naissance. Le corps retournera à la poussière. Il n'y aura pas de reprise comme pour la fille de Jaïrus, comme pour Lazare, comme pour le fils de la veuve de Naïn. Seulement, il y a un homme, sa piété, sa bonté, son courage, ce qu'il fait. Il y a deux femmes, leur persévérance, leur fidélité, leur attente. Eux trois préparent le surlendemain du jour de la mort, un surlendemain dont ils ne peuvent imaginer qu'il sera autrement que coulé dans le rite, baigné de chagrin, de larmes, oscillant entre désespoir et regret, entre reconnaissance envers le mort et acquiescement au manque. Eux trois font signe, signe de la limite entre la vie et la mort, signe que la vie peut continuer comme vie des vivants. Avant le surlendemain, avant le tombeau vide, il y a le tombeau plein. Avec un corps mort, mais aussi le manque, l'absence, ce qui a disparu, ce tombeau est un lieu véritable dans nos existences, et il se peut même qu'il y en ait plusieurs. Et Marc invite à les reconnaître, afin que pour chacun de nous, il puisse y avoir un surlendemain.